RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter le magazine culturel L'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et l'Australie sont d'accord pour améliorer les relations bilatérales. Le président indonésien Joko Widodo a reçu la délégation de CIO OCA au Palais Bogor, Java Occidental. Namibie, coopération dans l'agriculture avec l'Indonésie. Le ministère de l'Agriculture est prêt à ouvrir le marché des produits biologiques au Danemark. Chers amis, présente maintenant le journal complet. L'Indonésie et l'Australie ont convenu de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le président indonésien Joko Widodo l'a exprimé lors d'une conférence de presse avec le nouveau premier ministre australien, Scott Morrison, après leur rencontre au palais présidentiel à Bogor dans l'ouest de Java, vendredi. Selon le président Joko Widodo, la première visite d'État du premier ministre australien en Indonésie montre l'engagement du nouveau gouvernement australien à continuer de renforcer les relations mutuellement respectueuses et mutuellement bénéfiques. Et lors de la réunion, les deux chefs de gouvernement ont convenu de renforcer la coopération dans le domaine économique et commercial et aussi dans le domaine de cybersécurité.
Yang pertama, kami menyambut baik peningkatan hubungan dari
premièrement, nous nous félicitons et améliorer les relations du partenariat global au partenariat stratégique global. Deuxièmement, nous soulignons également l'importance de l'ouverture économique et des efforts à renforcer les relations économiques mutuellement bénéfiques. À cet égard, nous nous félicitons de l'achèvement des négociations de fonds de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Australie. Troisièmement, nous soulignons également l'importance du respect du droit international et du respect de la souveraineté de chaque pays. Quatrièmement, nous avons également convenu de continuer à améliorer la coopération dans le secteur de la sécurité, y compris dans le domaine de cybersécurité. Cinquièmement, nous avons un engagement élevé à continuer de collaborer pour régler les problèmes régionaux et mondiaux, y compris l'éradication du terrorisme, et à continuer de communiquer sur le développement de l'Indo-Pacifique et sur la question de Palestine. Le président Jokowi a également salué la signature d'un protocole d'accord sur la coopération économique créative, la cybersécurité et la coopération dans le domaine des transports. Cependant, le premier ministre australien Scott Morrison a expliqué que les relations bilatérales entre les deux pays étaient très importantes pour la région et aussi pour le monde entier. Le gouvernement australien va continuer à établir des relations plus étroites entre la communauté des deux pays. L'Indonésie est également le pays choisi par l'Australie pour coopérer en matière de sécurité dans la région de l'ASEAN et ses environs, y compris dans d'autres régions. Le président indonésien Joko Widodo a reçu samedi une délégation du Comité international olympique et du Conseil olympique asiatique au palais présidentiel de Bogor dans l'ouest de Java. Le président était accompagné de la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Ratno Marsudi, a eu des entretiens sur la mise en œuvre des Jeux asiatiques en Indonésie. Le président Joko Widodo a exprimé sa gratitude pour l'arrivée du président du Comité international olympique, Thomas Bach, et du président du Conseil olympique asiatique, Ahmad Fahad Al-Sabah, y compris d'autres délégations en Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La Namibie étudie la coopération agricole avec l'Indonésie. Cela est fait avant le président de la Namibie, Hage Geingob Gottfried, retour dans son pays le dimanche. Il a amené plusieurs délégués, y compris le ministre chargé de l'agriculture, et il a souligné la capacité de l'Indonésie à être en mesure de maintenir la disponibilité de produits alimentaires nationaux pour répondre aux besoins de consommation communautaire. L'Indonésie, avec une population de 250 millions de personnes, est capable de faire l'autosuffisance en produits agricoles dans le pays. Cependant, la Namibie, avec une population de 2 millions de personnes, est encore importe d'autres pays. Hage Geingob Gottfried est rentré dans son pays depuis l'aéroport Halim Perdana Kusuma de Jakarta samedi. À cette occasion, le ministre indonésien de l'Agriculture, Andi Amran Sulaiman, a déclaré à l'aéroport Halim Perdana Kusuma qu'il y avait des coopérations qui seraient réalisées, notamment dans les domaines agricoles. Concernant les semences de qualité, il proposera à la Namibie d'utiliser des semences de maïs en provenance de l'Indonésie. En comparaison, le maïs namibien a une productivité de 3 jusqu'à 4 tonnes par hectare, tandis que la productivité des semences indonésiennes est capable d'atteindre 10 tonnes par hectare. Le chef de l'Agence de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agriculture, M. Agung Hendriadi, a assisté au sommet mondial de l'alimentation au Danemark qui a discuté de l'orientation de l'industrie alimentaire et des aliments sains. Selon M. Agung Hendriadi au Danemark, environ 90% des ingrédients alimentaires ont été transformés et la transformation des aliments était déjà avancée. L'Indonésie aujourd'hui est en train de développer l'industrie alimentaire et des aliments sains et aussi augmenter la production alimentaire afin que la cible de l'Indonésie pour devenir World Food Basket ou panier alimentaire mondial en 2045 puisse être réalisée. Selon Agung, l'objectif de l'Indonésie pour l'année prochaine est l'autosuffisance en matière de consommation de sucre. En 2020, se concentre sur l'ail et le soja. En 2024, l'industrie sucrière. Et en 2026, le bœuf. Il estime que si l'Indonésie est capable de produire des aliments biologiques diversifiés, l'opportunité de marché au Danemark sera plus large. L'ambassadeur d'Indonésie au Danemark, M. Muhammad Ibnu Said, a déclaré que la question de la nourriture était le problème international et devrait être réalisé en référence aux objectifs de développement durable. Quel que soit le programme actuel, il doit être conforme au ODD et l'exécuter en partenariat. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Bonsoir à tous, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la mise au point de la semaine. Le titre d'aujourd'hui est Pertamina encourage l'indépendance énergétique. Les entreprises publiques ou BUMN de PT Pertamina doivent jouer un rôle plus important pour encourager ou créer une indépendance énergétique nationale. Pertamina doit augmenter sa production avant de réduire les importations de pétrole. Pour cela, Pertamina cherche à augmenter la production de puits dans la zone de production de pétrole et de gaz et à explorer et découvrir de nouveaux puits. Cela a été confirmé par Nike Widiawati après sa nomination en tant que directrice générale de Pertamina à Jakarta mercredi 29 août. Il y a 4 mois, Nike Widiawati a été directrice générale par intérim de Pertamina. Nike Widiawati a expliqué, en gérant la zone de production de pétrole et de gaz de Rokan en 2021, Pertamina devrait contrôler 60% de l'offre de production en amont en Indonésie. Nike est optimiste qu'avec de nouvelles zones de production, la production de Pertamina dans la production nationale totale en amont peut être augmentée. Elle a ajouté, pour créer un nouvel espace de travail, Pertamina doit s'engager résolument à investir dans des zones situées en dehors de la zone de production existante. Pendant ce temps, le ministre des Entreprises publiques, Rini Sumarno à Lampung mercredi, a déclaré que la tâche principale du directeur général de Pertamina est d'augmenter le levage ou la production de pétrole prête à vendre et d'investir dans les raffineries de pétrole. Parce que ces deux choses ont été faites trop tard par Pertamina. En augmentant la production et la production de pétrole prête à être vendue ou levage, et en investissant dans des unités de traitement du pétrole, les importations de pétrole devraient être réduites. Selon Rini, l'expropriation de plusieurs zones de production de pétrole et de gaz qui ont pris fin par Pertamina devrait accroître la production de pétrole. Par ailleurs, le vice-président Yusuf Kala a souligné que Pertamina avait des devoirs, à savoir le renforcement des infrastructures nationales. Pertamina a également été invité à investir de manière agressive en Indonésie et non à l'étranger, notamment pour construire des raffineries, gérer des blocs pétroliers et gaziers à Kalimantan, le bloc de Mahakam et Riau, le bloc de Rokan. En ce qui concerne la nomination de Nike Widiawati au poste de directrice générale de Pertamina, l'adjoint au secteur minier, l'industrie stratégique et média au ministère de BUMN, Fajar Hari Sampurno, a déclaré que cette décision faisait partie du recyclage et du renforcement de la société. Le gouvernement a également nommé Darmawan Samsu au poste de directeur de Hulu Pertamina en remplaçant Shamsu Alam. Et Kuswiranto Kushartanto a été nommé directeur des ressources humaines de Pertamina. Voilà la mise au point de la semaine.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Aujourd'hui, on se retrouve encore dans l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle le 2 septembre. On commence par le 2 septembre 1945, l'indépendance du Vietnam. Le Vietnam est le pays le plus à l'est de la péninsule d'Indochine en Asie du Sud-Est. Après, sous la domination de l'Empire chinois, le Vietnam est colonisé par la France. En 1941, le dirigeant révolutionnaire vietnamien Ho Chi Minh a fondé la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, ou Vietnam Doc Lap Dong Minh ou Viet Minh. La Ligue était composée de nationalistes et de communistes vietnamiens qui soutenaient l'indépendance du Vietnam. À cette époque-là, le Viet Minh luttait contre les coloniaux français et japonais qui occupaient le Vietnam. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ho a conduit le Viet Minh à prendre le contrôle des grandes villes du Vietnam. Le 2 septembre 1945, à la place Badin, Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance de la République démocratique du Vietnam et a été le premier président. Le 2 septembre 1992, le séisme au Nicaragua. Le tremblement de terre au Nicaragua en 1992 a eu lieu sur la côte du Nicaragua à 18h16 le 2 septembre. Au moins 116 personnes sont mortes et plusieurs blessées. Le séisme a créé un tsunami et la plupart des victimes qui sont mortes causées par un tsunami. Plus de 68 personnes ont disparu et plus de 13 500 personnes sans abri au Nicaragua. Les dommages totaux au Nicaragua sont estimés entre 20 et 30 millions de dollars américains. Le 2 septembre 1998, l'écrasement du vol 111 de la Suissaire au large de la Nouvelle-Écosse provoquant la mort de 229 passagers. Le vol 111 de la Suissaire est un vol de McDonnell Douglas ou MD-11 de l'aéroport international John F. Kennedy de New York, les États-Unis à l'aéroport international de Cointrin à Genève en Suisse. Le 2 septembre 1998, cet avion s'est écrasé dans l'océan Atlantique au sud-est de l'aéroport international d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Canada. L'avion a été brisé en eau et a tué tout le monde, soit 229 personnes, ou 215 passagers et 14 membres d'équipage. Cet accident était le pire accident impliquant des avions MD-11.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir tout le monde, voici le programme de mon Indonésie. Aujourd'hui, on va parler de Pancasila, réconcilier la nation. Du candidat à l'élection présidentielle 2019, Joko Widodo et Prabowo Subianto embrasseront l'athlète de Pancasila ou d'arts martiaux. Ce moment spécial a eu lieu lorsque les deux ont regardé la finale des arts martiaux à la région de Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, mercredi 29 août. Joko Widodo et Prabowo ont montré que, quelle que soit la difficulté des luttes politiques, cela ne réduit pas la complexité pour donner la priorité aux réalisations nationales. D'autre part, ce fait confirme la vérité selon laquelle le sport ressemble les différences. Pancasila ou l'art martiaux colle la nation. La scène de Kallang entre Joko Widodo et Prabowo, qui est également président de l'Association de Pancasila d'Indonésie et le président de Pancasila du monde, se produit quand un athlète d'art martiaux, Hanifan Yudani Kusuma, a battu l'athlète vietnamien Thai Linh, dont le score est de 3-2. Cet athlète a contribué la 29e médaille d'or pour l'Indonésie. Joko Widodo et Prabowo ont montré leur joie lors de cet événement. Lors d'une conférence de presse, Joko Widodo a dit que sa présence était de dire merci aux athlètes de d'arts martiaux qui ont des résultats élevés et a félicité Prabowo qui commandait les arts martiaux. En obtenant 14 médailles d'or de Pancasila et en laissant 2 médailles d'or à d'autres pays, l'Indonésie deviendra la gagnante des arts martiaux. En dominant l'acquisition des médailles de ce sport, Le total est devenu 30 d'or. Le président a déclaré que tout cela était pour l'Indonésie, pour l'État et pour le peuple indonésien. Prabowo, au nom de la communauté indonésienne de Pencaksilat, a remercié le président. Il a dit que tout le monde était fier de pouvoir faire de son mieux pour le pays. Selon les observateurs politiques de l'Université de Paramadina, Henry Satrio, Joko Widodo et Prabowo montrent l'attitude chaleureuse et bien que les deux soient des rivaux lors des prochaines élections. Toute la communauté, en particulier ses partisans fanatiques, devrait également voir cette bonne relation. Les auditeurs, voilà mon Indonésie.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, on se retrouve encore dans la rubrique du magazine culturel avec moi, Tiwi. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct de www.voynews.id, par l'onde courte de 3325 kHz ou par l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. Aujourd'hui, je vais vous présenter la danse de TB. Restez toujours avec nous à RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. Les auditeurs, le 23 août, le Festival des frontières de Malacca 2018 a eu lieu à la Régence de Malacca, Nusa Tenggara de l'Est. Le Festival des frontières de Malacca 2018 est un programme annuel organisé par l'Office de tourisme de la région de Malacca en collaboration avec le ministère du tourisme sous la forme de concerts de musique et de spectacles artistiques culturels. Ce festival a commencé vers 16h08 ou heure indonésienne centrale et a été commencé par une danse traditionnelle de Malacca, la danse de Likurai, interprété par des dizaines d'adolescents du studio de danse de Fajar Timur Kobalima. Après avoir regardé la danse de Likurai, les spectateurs ont regardé la danse de TB, jouée par 28 adolescents par pair. L'édition du magazine culturel d'aujourd'hui va vous présenter la danse de TB. La danse de TB est une danse originaire de la région de Belu, l'île du Timor, Nusa Tenggara de l'Est. Cette danse est une expression d'excitation face au succès ou à la victoire où des hommes et femmes se donneront la main pour chanter des poèmes et des comptines ou pantounes ou kananouk qui contiennent des éloges, des critiques ou des supplications en piétinant ses pieds au rythme de la chanson. Habituellement, un groupe de danseuses forme un cercle extérieur et un groupe de danseurs forme un cercle intérieur. Mais ce n'est pas absolu. Si l'atmosphère est plus encombrée, ils seront généralement plus enthousiastes et à piétiner et à sauter. Les auditeurs, cette danse qui implique beaucoup de gens se fait généralement la nuit comme une expression de gratitude pour la mise en œuvre d'un travail comme la récolte, le mariage, etc. Mais maintenant, la danse de TB peut être pratiquée à tout moment, en particulier pendant la journée s'il y a des événements et des divertissements ou des invités. À la fin de la danse de TB, tous les danseurs s'asseoiront ensemble sur un grand tapis pour déguster le plat en signe d'adieu. Les auditeurs, la danse de TB ne connaît pas l'âge, le degré ou la position des danseurs. Parce que quand ils dansent, toutes les communautés, soit les enfants, les adolescents, les adultes, les vieux, les pauvres, les riches et les autres, se rassembleront pour former un cercle illimité par strates. Habituellement, lorsque vous dansez cette danse, vous verrez des visages souriants heureux parce que les gens peuvent exprimer leur joie. À cause de cela, la danse de TB ne se fera que s'il y a une atmosphère de bonheur. Donc, cette danse ne se fera pas à la mort ou au mémorial de la mort, car elle n'est pas conforme à la philosophie ou au sens de la danse. C'est une expression d'excitation ou du bonheur. Les auditeurs, voilà l'édition du magazine culturel qui vous présente la danse traditionnelle de TB. On se retrouvera encore dans la même rubrique. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, on se rencontre dans la rubrique L'Indonésie en couleur avec moi, Tiwi. Cette édition va parler d'un sujet dont le titre est « L'Indonésie a remporté l'or à la branche e-sport des Jeux asiatiques ». Restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Parlons de cœur de 3,3-200 kHz. Auditeurs, les Jeux asiatiques de 2018 qui a eu lieu à Jakarta et Palembang, en Indonésie, du 18 août au 2 septembre 2018, il y a non seulement la compétition physique, mais aussi les sports électroniques ou e-sports qui impliquent des joueurs. Bien que le statut de e-sport soit toujours une exposition, mais c'est la première fois que les joueurs peuvent participer à une grande fête sportive internationale. Comme les athlètes d'autres sports, il y a aussi des médailles d'or à gagner dans ces sports électroniques. Les auditeurs, essentiellement les sports électroniques aux Jeux asiatiques de 2018, se veut une démonstration de la véritable compétition en 2020. Signalé par The Guardian, si la compétition peut se dérouler sans problème, en 2024, ce e-sport sera présent aux Jeux Olympiques. Il y a 6 numéros de ce sport électronique, ce sont League of Legends, Hearthstone, Pro Evolution Soccer 2018, StarCraft 2, Clash Royale, Arena of Valor, qui sont suivis par 18 pays. La Fédération des sports électroniques en Asie a officiellement annoncé les sports électroniques de Arena of Valor aux Jeux asiatiques 2018. Les matchs de sports électroniques s'est déroulé du 26 août au 1 septembre 2018 et le premier match qui se fait le dimanche 26 septembre 2018 est Arena of Valor. Le match de l'Arena of Valor est plus animé en raison de divers caractères fournis par les jeux. L'un des plus récents est le super-héros d'Indonésie, Wiro Sableng. Les auditeurs, cité de Tribune News vendredi 24 août 2018, comme d'autres sports, le critère de la compétition de e-sport sont la vitesse, l'expertise et l'utilisation de l'énergie. Le secrétaire général du Comité olympique indonésien, Sarita Helen Delima, dit que les joueurs utilisent l'esprit et le pouvoir d'exécution et de contrôle du jeu. Helen a également comparé entre plusieurs sports qui ont également participé à la compétition des Jeux asiatiques et les sports électroniques. Selon elle, les athlètes de e-sport doivent également maintenir leur endurance et leur forme physique. Selon lui, les athlètes de e-sport doivent également maintenir leur endurance et leur forme physique pour des performances optimales. Ridel Yesaya Sumarandak a remporté la médaille d'or du jeu classe royale. Cette adolescente de 16 ans a battu le meilleur athlète chinois au monde, Li Xiaop. Li Xiaop doit recevoir une note de 1 à 3 et a gagné une médaille d'argent dans cette catégorie e-sport. La médaille de bronze a été remportée par un joueur vietnamien qui avait également été battu par Ridel en demi-finale. En raison du succès des e-sports aux Jeux asiatiques de 2018, les sports électroniques seront en compétition aux Jeux asiatiques de 2019 aux Philippines. En outre, la Fédération asiatique de sports électroniques essaye de faire de e-sport aux Jeux olympiques de 2020 et aux Jeux asiatiques de 2022. Les auditeurs, c'est toute l'édition d'Indonésie en couleur d'aujourd'hui. On se retrouvera avec d'autres sujets intéressants. Au revoir.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir chers amis, voici une édition courrier et musique de La Voix de l'Indonésie. Et toute l'équipe de l'émission française de La Voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et également présenter des chansons indonésiennes. Chers amis, le 2 septembre est la clôture de la plus grande fête sportive de l'Asie tenue à Jakarta et à Palembang, Sumatra du Sud. Pour cela, cette édition va présenter des hymnes nationaux de plusieurs musiciens indonésiens. Avant de saluer nos auditeurs, écoutons la chanson intitulée Indonesia terhebat, ou en français l'Indonésie est la meilleure. Bonne écoute.
Budaya
la chanson L'Indonésie est la meilleure ou Indonésia très hebat, chantée par Écoutez. Elle raconte d'un pays qui a une nature magnifique avec de diverses cultures. Chers amis, merci d'être fidèles à écouter la voix de l'Indonésie. Je vais dire bonjour aux auditeurs de la France, Vincent, de 14 rue Camille Saint-Saëns, 92400 Courbevoie France, et pour Jean-Michel Aubier, de 13 route de Brissé, 18340 Alsaïe la France, et Franck-Jacques, de 1er route des Aiglantiers, F89430 Huile, Maréchal Pierre de la France précisément à 17 allée des Trousse-Gelée, et Daniel Thielan, 14 Petite Roue, 5540 Saint-Germain-sur-Meuse, France. Claude Hieronymus, 42 Rue Jules Ferry, 54000 Nancy, France. Et Bernard Grandin à Saint-Ruel-du-Pont, 97427 Étain-Salé-les-Hôtes, île de la Réunion, océan Indien. Comment allez-vous, chers amis? Nous espérons que vous êtes tous en bonne santé. Restez toujours en contact avec nous. Chers auditeurs, je vais vous présenter ensuite la chanson dont le titre est Tana Airku, ou en français Ma Patrie, chantée par Ishana Saraswati. Bonne écoute.
Tana Airku tidakku
la chanson Tanah Airku, ou en français Ma Patrie, d'Ishana Saraswati. C'est un hymne national créé par Ibu Sud qui a été réarrangé par Ishana, accompagné de musique orchestral. Chers amis, meilleures salutations à Maurice Mercier en France, précisément à 537 rue François Giraud, 69400 Villefranche-sur-Saône, et pour Abdelkader Khalil, adresse BP 669 Ouargla, Algérie, Omar Lassas, BP 530 Bureau de Poste Émir AEK, 29008 Mascara, Algérie, et pour Sergi Giovanni, Via Sibari, 39849 Messina, l'Italie. Chers amis, nous sommes très heureux de recevoir vos lettres, mails et messages de tous les coins du monde. Nous attendons avec impatience d'autres lettres et rapports d'écoute. Nous vous remercions aussi pour la carte postale. Et c'est tout l'édition de Courrier et Musique d'aujourd'hui. Pour la clôture, les deux chansons que vous allez écouter s'intitulent « L'Indonésie Pusaka » chantée par Rosa et « L'Indonésie Bersatula » chantée par Samson. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes sur 925 kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Serahkan.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4 et 5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.